Alors ce matin, je me présente à vous avec une question que je me suis posée. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'on attend de moi ? En fait, c'est une question que je me suis posée et qui tourne en fait cette question parce qu'en fait, en gros, souvent, j'apporte un message, une exhortation ici devant l'Assemblée. Et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on attend du prédicateur ? Et cette question, elle tourne, elle gravite autour de plusieurs autres questions qui tournent autour du culte, comme que doit-on faire lors d'un culte ? Que doit-on dire dans un message ? Combien de temps doit-il durer ? Quelle forme devrait-il prendre ? Et encore bien d'autres questions. Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions, et on va aborder quelques points pour essayer d'apporter malgré tout quelques réponses. Alors, vous le savez que nous prêchons chacun notre tour à l'église, et il m'arrive d'arriver au culte en me disant « Eh mince, et si c'était moi ? Si c'était moi, mais que j'avais oublié de préparer quelque chose ? Qu'est-ce que je pourrais vous partager ?» Alors imaginez-vous, vous arrivez dimanche prochain, personne de ceux qui ont l'habitude de mener le culte n'est là, qu'est-ce que vous faites ? Alors j'ai tapé dans ma barre de recherche Google, j'ai mis « Que doit-on faire lors du culte ?» Et je suis tombé sur un site qui s'appelle Wikiao, c'est un peu le Larousse du comment faire, c'est un site où est-ce qu'il y a un ensemble de tutoriels un peu sur tout, et il disait ça. Pour tout office religieux, il est essentiel que quelqu'un mène le culte. Un bon meneur de culte sera encouragé les fidèles à se joindre à lui pour une prière sincère et profonde. Puis après, il mettait en avant l'importance de la préparation, par la prière, par la méditation, l'étude du texte, la répétition, mais aussi en prenant soin de soi pour être en forme le jour J. L'autre jour, on parlait avec deux frères à la suite d'un groupe CLAPS, du fait d'apporter quelque chose et d'emmener l'assemblée avec nous. Damien, quand il a commencé tout à l'heure, il a dit ça aussi, on va vous emmener avec nous dans la louange. Et il y a cette notion-là, en fait, du coup. Lorsqu'on est devant l'Assemblée, Dieu a mis dans notre cœur un message, une vérité, et on prend alors le temps de la méditer, de la préparer soigneusement, dans le but de vous la transmettre, afin que vous puissiez comprendre ce message, le recevoir et même le vivre avec nous. On peut alors parler de satisfaction lorsque le message est compris, que l'on sent que ce que l'on a partagé a été reçu, perçu par l'auditoire. Et cette joie n'est pas une joie orgueilleuse où on prend plaisir à se mettre en avant nous en tant qu'homme. Non, l'idée c'est plutôt de vous amener à Christ au travers de ce message, de vous guider dans l'adoration. Notre envie de partage, elle est ainsi motivée par l'amour. Et cet amour, il est simplement déversé dans nos cœurs par Christ. Et l'objectif du culte est bel et bien de se tourner ensemble vers Dieu pour recevoir non pas de moi, mais de lui. Au travers de mes lectures, je me suis parfois demandé si on faisait bien. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte de la sainteté de Dieu et ô combien elle ne devait pas être prise à la légère. Amos 5, versets 20 à 23, met en avant le fait que Dieu n'accepte pas tous les cultes qui lui sont rendus. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière ? N'est-il pas obscur et sans éclat ? Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Avant de se présenter à Dieu, Aaron et ses fils, les sacrificateurs, devaient respecter un ensemble de règles en vue de respecter la sainteté de Dieu. Dans le Lévitique, chapitre 16, verset 2, on lit « L'Éternel dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire, qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Le respect, la sainteté de Dieu ne doit pas être bafouée. Nous ne sommes plus sous la loi, sous la grâce, mais Dieu reste Dieu. À l'époque, le peuple ne pouvait pas se présenter lui-même personnellement dans le sanctuaire, et donc c'est les fils d'Aaron et Aaron lui-même qui se présentaient devant Dieu. Mais on voit que lorsque les fils d'Aaron ont amené devant Dieu un feu étranger, Dieu les a punis pour le feu étranger qu'ils ont fait entrer dans le sanctuaire. Lévitique 10, versets 1 et 2 nous dit « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent des parfums dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. » Alors je ne cherche pas à vous faire peur, mais simplement à vous faire prendre conscience vraiment de l'importance du respect de Dieu, de l'honorer comme il se doit. C'est la raison pour laquelle, aidés par le Saint-Esprit, nous devons chercher à connaître Dieu pour savoir comment lui plaire. Le terme grec le plus souvent traduit par « culte » dans le Nouveau Testament, « proskuneo », signifie « tomber devant » ou « s'incliner devant ». Le culte, l'assemblée des croyants, a pour but de glorifier Dieu, de l'adorer. Et il est important de le faire en esprit, dans notre cœur, et en vérité par notre pensée. Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On trouve les origines du culte dans le culte juif. Dans les Écritures, Jésus est décrit comme se réunissant avec ses disciples pour partager des enseignements et débattre sur des sujets, prier et chanter des cantiques. Dans les Actes des Apôtres, on lit que les premiers chrétiens avaient également cette habitude. Acte 2, verset 42 nous dit « Ils s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Le résultat était la bénédiction de Dieu, car le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. » Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul a précisé les principaux éléments qui devaient composer le culte, à savoir la louange, l'enseignement, un sermon, l'offrande, la Sainte Cène. Alors ceci répond à la question « Que devons-nous faire lors d'un culte ?» Eh bien, prendre la parole, la lire, la partager, chanter, louer le Seigneur, et puis vivre ce temps de communion, de partage autour de la scène. Le psaume 133, versets 1 et 3 nous rappelle que dans tous les cas, « Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » On notera quand même que certaines choses nous empêchent de louer Dieu et nous empêchent de nous approcher de Dieu. Adorer Dieu en esprit se fait avec un cœur pur, ouvert, repentant. Quand le roi David a péché avec Bathsheba dans 2 Samuel chapitre 11, son cœur était rempli de culpabilité et il lui était impossible de louer Dieu, d'adorer Dieu. Il se sentait loin de lui et le texte nous dit « il gémissait toute la journée ». Sa communion avec Dieu n'a été rétablie qu'après avoir confessé son péché. Il dira dans le psaume 51, verset 19, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Un cœur rempli de péché, non confessé, ne peut louer et adorer Dieu. La réalité, c'est que chaque jour devrait être un culte à Dieu. Romains 12 nous le dit bien, 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et Hébreux 13, versets 15 à 17 nous dit aussi « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ça répond en partie à pourquoi un pasteur. Ce modèle est inspiré de la Bible et instauré par Dieu. Moi-même, je ne suis pas pasteur, mais Dieu m'a mis à cœur de partager sa parole. Et je vous le dis régulièrement, c'est pour moi une joie que d'être devant vous, de pouvoir partager avec vous les richesses de la parole de Dieu. Dans la Bible, on voit que le peuple de Dieu est presque toujours, et quand il ne l'est pas souvent, c'est parce qu'il s'est écarté de Dieu, mais il est toujours dirigé par un homme de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus, les apôtres. Le pasteur, le berger, prend alors soin de ses brebis et par amour pour elles, désire qu'elles croissent en connaissance et en amour pour Dieu. Éphésiens 4, versets 10 à 16. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Les ministères que Dieu nous confie sont faits pour former les saints, dans le but d'accomplir quoi ? La volonté de Dieu. Selon ce texte, le ministère aurait donc pour fonction principale de former les chrétiens afin qu'ils puissent, chacun selon son appel, vivre ce à quoi Dieu les a appelés. L'homme est en réalité bien peu de choses, mais le Seigneur veut nous utiliser comme des canaux pour transmettre sa parole. Cette œuvre ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Psaume 115, verset 1. Ce qui doit nous motiver n'est pas l'homme qui prêche, mais ce que nous allons recevoir de Dieu par son intermédiaire. Le message va-t-il me faire grandir dans la connaissance de Dieu ? Va-t-il édifier le corps de Christ ? L'amènera-t-il à l'unité de la foi ? Va-t-il croître, faire grandir notre relation avec lui ? C'est mon désir. Alors qu'êtes-vous venu chercher à l'église ? J'avais en tête un verset que je n'ai pas retrouvé, mais je pense que c'est un verset que le Seigneur m'a mis sur le cœur, même s'il n'était pas exactement celui que j'avais en tête. Je cherchais, qu'êtes-vous venu chercher au rocher ? Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais je n'ai pas trouvé. Qu'êtes-vous venu chercher au rocher ? Mais ce n'est pas grave, parce que ça a nourri du coup ma réflexion. Et vous avez pu déjà l'entendre aussi, on a parlé un petit peu de l'eau qui jaillit, et on va continuer là-dessus. Le Seigneur, je pense que vraiment, il m'a mis à cœur ce verset, ce passage où Moïse y frappe le rocher pour en faire jaillir de l'eau. On va le prendre. Exode 17, versets 5 et 6. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Je le dis quand même, parce qu'on ne le lit pas là dans le passage que je prends, mais ça fait suite aussi au fait que le peuple râle, il conteste, il dit « Mais pourquoi nous as-tu emmenés dans le désert si c'est pour qu'on meure ?» Le peuple d'Israël a vu de nombreux miracles de la main de Dieu, mais il est sans cesse en train de râler, de se plaindre. Et donc du coup, Dieu continue malgré tout ses œuvres et ses bénédictions. Si nous sommes là ce matin, je le crois et je l'espère, c'est que vous avez soif. Nous venons ici pour nous abreuver au rocher où Dieu se tient. C'est lui la source d'eau vive à laquelle nous voulons boire. 1 Corinthiens 10, versets 1 et 4 nous dit « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Dans les temps d'errance, les 40 ans dans le désert du peuple d'Israël, Dieu a pris soin de son peuple. Il l'a nourri, il lui a donné à boire, il l'a béni, et c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui avec nous. Ésaïe 41, 17 à 18 nous dit « Les plus humbles et les pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de boire l'eau d'une source. Pour ma part, c'est souvent quand je vais en vacances, parce que par ici, il n'y a pas beaucoup de sources. Mais c'est souvent quand je vais en vacances, et c'est souvent lors d'une sortie bien chaude, alors qu'on marche, qu'on a chaud, qu'on est fatigué, on tombe dans les montagnes, par exemple, sur des sources d'eau. Et l'eau qu'on y trouve, elle est fraîche, elle est limpide, elle arrive à point nommé alors que nous mourons de soif. Eh bien, les bénédictions de l'Éternel sont tout comme cette source. Elles sont une source d'eau fraîche à laquelle nous pouvons nous désaltérer. Alors, j'aurais pu finir ici mon partage, mais il y a un dernier sujet que je voulais aborder, la durée du culte. Rien n'est dit concernant la durée du culte, et cela dépend plutôt de l'orateur. De manière générale, quand on prépare quelque chose, on va jusqu'au bout de ce qu'on a engagé. Malgré tout, il m'arrive, avec les jeunes notamment, d'écourter ce que j'ai préparé en fonction des signes de l'auditoire. Bon, c'est pas le cas pour vous ce matin. Donc j'irai jusqu'au bout. Mais il reste pas grand-chose. Le pape François, il a appelé les prêtres à raccourcir leur homélie. Parce qu'ils sont souvent trop longues et ennuyeuses. Il disait même dans un commentaire... 45 minutes, c'est pas possible, etc. Parce que les chrétiens catholiques, des fois, se plaignent de la durée des messes. Et pour lui, elle ne devrait pas durer plus de 10 minutes. Alors, il mettait en comparaison aussi, justement, les cultes protestants qui, eux, en général, ont des messages qui peuvent durer jusqu'à une heure, même, parfois même plus. Bon, ça dépend du coup de ce qu'on a à partager et puis des capacités de l'orateur, mais de voilà. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à faire tout vite et notre cerveau n'a plus l'habitude de se concentrer longtemps. D'ailleurs, je prendrai comme exemple justement les petites vidéos YouTube. On le voit de plus en plus maintenant. Une vidéo maintenant, c'est même plus une vidéo, c'est une vidéo qui est saccadée. Et en fait, pour capter notre attention et nous focaliser sur la vidéo, ils coupent même régulièrement tous les 5 secondes la vidéo. Je ne sais pas si vous avez fait attention, vous ferez attention à partir de maintenant, mais quand on regarde une vidéo YouTube, souvent, hop, ça fait une petite saccade. C'est la même image, mais ils coupent un petit peu, juste histoire que ça fasse une saccade dans la vidéo et que notre attention, elle retourne sur la vidéo. Moi, je pense que quand le Seigneur parle, le cœur écoute. Donc, peu importe la durée de la prédication, cela dépend plutôt de l'orateur et bon, après du temps de concentration de chacun, quoi. Alors du coup, j'espère simplement ne pas avoir été trop long ou trop court, mais bien plus encore, j'espère que ce message que vous avez entendu vous bénira. C'est la volonté vraiment que j'ai ce matin. J'espère que ce message, comme on a pu le lire, vous fera grandir, qu'il vous donnera envie d'apprendre à connaître Dieu, de respecter sa sainteté, de marcher avec lui et de vous rapprocher de Dieu. Allez à cette source d'eau vive que le Seigneur donne, que le Seigneur dispense à tout moment. On a la chance aujourd'hui, par le Saint-Esprit, de pouvoir avoir accès à Dieu de manière naturelle, à pouvoir le prier. On a maintenant des Bibles, on a aussi des commentaires, etc. Donc on a un panel de choses qui peuvent nous faire grandir dans la connaissance. Et bien sûr, ce qui peut, comme je disais aussi aux jeunes hier, la chose la plus importante, c'est d'avoir une relation. C'est ce que le Seigneur y veut. Il veut vraiment une relation de proximité. Et c'est dans cette relation de proximité et d'intimité qu'on apprendra à le connaître et qu'on croissera en connaissance et en amour pour lui.